Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Il est l'auteur d'une collection sur les grandes batailles navales et peintre officiel de la marine. Jean-Yves Delitte nous raconte l'histoire du Bismarck dans un instant, célèbre cuirassé de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Yves.
Alors Bismarck est un cuirassé allemand qui a été lancé dans les derniers jours précédant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été le fleuron de la marine, de la Kriegsmarine allemande. Et c'est un navire qui aurait pu connaître une fin merveilleuse, sauf que sa fin fut tout simplement tragique puisqu'il a été coulé en mai 1941 par la Royal Navy anglaise.
Reportage sur la fin de saison touristique dans les stations balnéaires en cette période de fin de vacances de la Toussaint.
On va se retrouver toute seule dans notre camping avec tout l'entretien qui va derrière après la saison pour préparer la saison à venir.
Gwendal Jaffry, vous nous présenterez un architecte australien, Michael Storer.
Michael Storer, inventeur notamment de l'Oz Goose, le bateau le plus étonnant que je connaisse.
Et Jean-Michel Guignet, vous allez nous présenter le Dingigo.
Et oui Jérôme, on va parler d'une annexe qui fait aussi voilier. Habituellement on est habitué aux petites annexes avec juste un moteur hors bord. Et bien là, il y a un plus, on peut mettre une voile.
A tout à l'heure messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Jean-Yves Delitte, bonjour.
Bonjour.
On va déjà commencer par présenter le contexte de l'époque. Nous sommes en 1941.
Oui, alors en 1941, on va dire que l'Angleterre est la seule survivante des premiers affrontements qui ont opposé l'Allemagne nazie, aidée par l'Italie fasciste, au reste du monde. Elle est donc seule sur son île, isolée. Elle a besoin absolument de ravitaillement qui viennent en particulier de ses colonies comme le Canada. Il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis ne sont pas encore officiellement rentrés en guerre et donc aident son allié, enfin qui n'est pas encore officiellement son allié, l'Angleterre, mais d'une façon très, très timide. Et donc les Allemands, eux, conscients qu'ils peuvent mettre à genoux l'Angleterre, décident de l'affamer tout simplement en coupant ses routes d'approvisionnement et lancent donc dans l'Atlantique Nord en particulier plusieurs flottes de navires de surface, parce qu'on pense toujours aux U-boats, mais il y a eu pas mal de navires de surface qui sont partis semer le désordre dans l'Atlantique. Et l'une de ces dernières missions est donnée, enfin une des dernières missions en date en 1941, c'est donnée au Bismarck et à son croiseur lourd qui l'accompagne, le prince Eugène.
On a planté le contexte, Jean-Yves, on va maintenant aborder le Bismarck, donc ce cuirassé impressionnant, hein.
Oui, alors il faut savoir que l'Allemagne nazie, à partir des années 30, a profité un peu des désordres politiques qu'il y avait en Europe et des zizanies qu'il y avait entre différents États pour s'armer d'une manière très discrète et donc de construire d'abord ce qu'on va appeler des croiseurs, parce que là, il y avait le traité de Versailles, le traité de Washington qui empêchait la prolifération d'armes lourdes sur la mer et donc limitait le tonnage des navires. L'Allemagne va jouer un peu avec les traités et lancer effectivement la construction en toute discrétion de plusieurs navires de surface assez imposants, dont le Bismarck, tout en cachant à l'Angleterre comme à la France la vérité. Et la France, la vérité, politiquement faible, ne veulent pas voir, joue un peu à l'autruche, ils ne veulent pas voir ce qui se prépare. Et donc quand le Bismarck apparaît, effectivement, avec un sister ship qui est le Tirpitz, ça va effrayer les flottes françaises, mais surtout l'Angleterre, qui va se rendre compte qu'elle a là face à un adversaire de taille assez impressionnante.
Quelques chiffres pour nous imager un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'il y a des énormes tourelles, notamment à l'avant. Hein.
Alors le Bismarck a 8 canons de 380 qui l'arment. Ce sont, on va dire, dans la puissance militaire de l'époque, les plus puissants canons, avec évidemment les Anglais ont des canons fortement similaires. C'est des canons qui vous projettent des obus de près de 800 kilos d'acier et d'explosifs à près de 30 kilomètres. Je vous laisse imaginer ce que ça fait à l'impact. Ça vous coupe en deux n'importe quel navire normal, je veux dire, civil, ça vous le détruit. Donc en une salve, ils peuvent vous envoyer par le fond la plupart des vaisseaux de surface de l'époque, enfin des navires de surface de l'époque, les cuirassés étant protégés par, comme le dit leur nom, par leurs cuirasses d'acier qui font plusieurs centimètres d'épaisseur.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je m'en, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort.
Alain Bachung, La nuit je mens, le choix musical de notre invité que l'on va retrouver dans un instant. Ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, partenaire de ce magazine qui va nous parler d'un architecte australien, Michael Storer.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Il conçoit des bateaux étonnants.
Des bateaux étonnants parce que notamment il y en a un qui ressemble davantage à une table de salon qu'à un bateau, mais on va revenir un peu là-dessus. Michael Storer, c'est un Australien né en Australie et quand il est jeune, il fait beaucoup de dériveurs, le NS-14, une série qu'on connaît pas ici mais qui laisse un peu présager de sa carrière à venir. Il fait des études d'architecture navale, mais il arrête assez rapidement parce qu'il se voit pas dessiner des pétroliers, des porte-conteneurs et des méthaniers toute sa vie. Il décide d'arrêter et il va embaucher dans une entreprise australienne qui s'appelle Duck Flat Wooden Boat. Cette entreprise-là commercialise des bateaux en kit. Et pour lui, c'est une révélation. Pour lui qui pensait que tous les bateaux étaient des bateaux de série et nécessitaient un certain pouvoir d'achat, le bateau en kit, il se rend compte qu'on peut avoir un joli bateau à construire soi-même et partant de là qui est beaucoup moins cher. Duck Flat Wooden Boat lui apprend ça, mais dans le même temps, il découvre aussi un autre architecte naval qui s'appelle Ian Outreg. Ian Outreg est un Néo-Zélandais qui vit aujourd'hui en Écosse et avec Ian Outreg, il découvre surtout les kits bien faits et les dossiers précis, faciles à comprendre, donc ils vont faciliter encore plus la construction. Duck Flat, Ian Outreg, une troisième option qui est importante, le contreplaqué époxy. Le contreplaqué époxy, c'est la garantie d'avoir des bateaux encore plus faciles à construire et durables. On mélange tout ça et Michael Storer va commencer à concevoir ses premiers plans. Premier bateau, Bess, qui est un canoë à voile très joli. Second bateau, qui est le plus répandu de ses plans aujourd'hui, qui s'appelle le Gough Island Skiff. Gough, la chèvre en anglais, du nom d'une île qui est au large de Sydney. Un bateau taillé à la serpe, a priori, il n'est pas très joli ce bateau. Il a une étrave droite, il a des flancs droits, il a un tableau droit, mais pas tout à fait droit. Il y a un peu de courbe, il y a un peu d'angle par endroit qui fait qu'au final, quand on apprend à le regarder, on apprend vite à l'aimer. Surtout un bateau très intéressant, 4,73 m de long, 1,52 m de large. Le record de construction de ce bateau en poids est de 48 kg. Un bateau qui est aussi toilé qu'un laser, un bateau qu'on connaît bien sur nos côtes, mais qui est 20 kg quasiment de moins qu'un laser. Donc un bateau extrêmement performant, avec une voile classique, parce que Michael Storer tient à certains types de voiles classiques en disant que si aujourd'hui on va essentiellement vers des voiles modernes, c'est parce qu'on a oublié le savoir-faire des voiles classiques et qu'il y a des choses très intéressantes à en tirer. Et un bateau aussi modulable, un constructeur français, Emmanuel Conrad, qui est installé dans l'Oise, a notamment modifié un Goat Island Skiff. Il a mis des coffres étanches, il a mis une plateforme pour pouvoir mettre une tente pour dormir. Il a mis un banc à coulisses pour faire de l'aviron, etc. Je vous parlais de bateaux étonnants. Le bateau le plus étonnant de Michael Storer est l'Oz Goose, un bateau carré. Il est carré de partout. On dirait vraiment une table basse à laquelle on a rajouté un tout petit peu de hauteur. Mais c'est un bateau très toilé. Comme il est très large, il peut aussi porter beaucoup de toile, beaucoup de stabilité. Et la preuve, c'est qu'il marche, notamment aux Philippines, où aujourd'hui est installé Michael Storer et où il fait la promotion de ces bateaux-là, justement simples, parce qu'il faut qu'ils puissent être construits partout et pas seulement dans les pays occidentaux qui ont tous les matériaux à portée de main.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec Jean-Yves Delitte pour évoquer le Bismarck. L'histoire aussi liée intimement au Bismarck, c'est celle du HMS Hood, navire britannique, donc coulé par le Bismarck. Et derrière, la Royal Navy va chercher à se venger.
Oui, effectivement. Alors, il faut savoir que quand le Bismarck va appareiller des côtes de Norvège avec le prince Eugène, immédiatement, les forces anglaises sont alertées parce qu'elles surveillent tout cela. Elles envoient à la poursuite de Bismarck une flottille qui est composée en particulier du croiseur de bataille Hood, qui date de la Première Guerre mondiale, mais qui était modernisé, d'un tout nouveau cuirassé qui est le Prince of Wales, et accompagné de deux croiseurs lourds. Sur les chiffres, effectivement, la flotte anglaise n'a rien à craindre des deux navires allemands. Malheureusement, la première confrontation qui va avoir lieu entre les navires, les croiseurs de manière un peu extraordinaire ou incompréhensible, les deux croiseurs anglais ne prennent pas part au combat et laissent seulement le cuirassé et le croiseur de bataille Hood face aux deux adversaires allemands. Il y a des échanges de feu, bien sûr un tir d'artillerie assez intensif, et rapidement, et ça c'est un peu la chance ou la malchance, tout dépend de quel côté on se place du canon, qui va faire que le Hood va littéralement exploser, couper en deux. Alors, il faut savoir que les croiseurs de bataille anglais étaient des navires très puissants, étaient l'équivalent en puissance de feu à un cuirassé, avaient la rapidité en plus, mais inversement au cuirassé, avaient une protection moindre. Et ce qui va arriver au Hood, c'est ce qui est arrivé pendant le premier conflit mondial, c'est-à-dire que tout simplement, il va être touché à un point vulnérable de sa cuirasse, ça va mettre le feu à ce qu'on appelle la cordite, qui est l'explosif qui sert dans les tourelles pour propulser les obus, et comme la mèche qu'on allume un tonnet de poudre, tout simplement l'explosion sera gigantesque et va couper en deux le Hood, le coulant immédiatement. Il reste en seul, évidemment, le Prince of Wales se retrouve d'un seul coup face à deux adversaires. Le Prince of Wales, qui est un nouveau cuirassé, a aussi ce qu'on appelle les maladies de jeunesse. Et donc, le Prince of Wales, la seule chose qu'il peut faire, c'est foutre le camp, pour dire gentiment les choses. Parce que sinon, c'est la perte qui le menace grandement.
Le fil conducteur de cette bande dessinée, c'est un papy, un grand-père, qui raconte donc à son petit-fils son aventure sur le Bismarck, sur lequel il a été technicien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, comme dans toute la plupart des ouvrages de la des grandes batailles de la collection, je m'attache à faire rentrer le lecteur par le petit côté, par le détail, en faisant vivre la bataille à travers les yeux d'un commun, de quelqu'un, pas nécessairement de l'amiral en chef ou du commandant du navire, mais plutôt le saint matelot qui lui a un regard beaucoup plus humain et des fois beaucoup plus critique sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule. Le choix que j'ai fait pour le Bismarck, effectivement, c'est pas de prendre le bon côté des Anglais, mais plutôt de me placer tout simplement dans le personnage d'un simple matelot allemand, qui lui a les idées de l'époque, a des idées pas toujours très, très convenables, qui sont propres à l'époque. Il a des ressentis par rapport à ce qu'est l'Allemagne nazie. Il admire à la fois l'Allemagne nazie qui a permis, avec Adolf Hitler, à faire ressortir l'Allemagne un peu du joug qu'elle subissait de la part des alliés suite à l'armistice de 1918. Donc tout ça est raconté et effectivement permet au lecteur de plus facilement se prendre au jeu, je veux dire, de rentrer dans l'histoire plutôt que d'avoir des beaux discours pompants que pourrait être de par un amiral ou un commandant-chef d'une armée.
Dans la collection Les Grandes Batailles Navales, le Bismarck, par Jean-Yves Delitte, c'est aux éditions Glénat. Merci Jean-Yves.
Mais je vous en prie.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Les vacances de la Toussaint marquent la fin de la saison touristique. De nombreuses stations balnéaires s'apprêtent à entrer en hibernation. Exemple en Bretagne, dans le nord des Côtes d'Armor, avec ce reportage de Johan Moison.
Et dans sa petite boutique de vêtements marins à Plévenon sur la route du Cap Fréhel, Laurence se sent, comment dire, un peu seul.
Un petit peu, la ville s'endort tout doucement.
Ouais. On travaille encore jusqu'au 4 novembre et après les week-ends jusqu'à Noël. Ensuite, on ferme la boutique jusqu'à Pâques, le retour des vacanciers, des résidences secondaires.
Non loin de là, à Pléboule, Catel et sa sœur Valérie s'apprêtent à fermer leur camping pour 5 mois.
On ferme dimanche midi. On va se retrouver toute seule dans notre camping avec tout l'entretien qui va derrière après la saison pour préparer la saison à venir. L'hivernage des mobilhomes à faire, tout l'hivernage du terrain, tailler les haies, l'élagage d'arbres dans l'hiver. C'est pas 5 mois de vacances.
Dans la station des Sables d'Or, ça sent aussi l'hiver. On aperçoit une crêperie fermée. Mais ce n'est pas le cas de tous les commerces. Pauline tient à laisser sa pizzeria ouverte pendant l'hiver.
On reste ouvert jusqu'à janvier.
Et vous voyez quand même des touristes?
On voit encore des touristes, mais on a aussi une clientèle locale. Et puis de rester ouvert pour une station qui est quand même une route passante pour aller au Cafrel, c'est bien de voir qu'on est là. Sinon, autrement, les gens se disent qu'il n'y a rien qui se passe ici et ils ne viennent plus.
Peu à peu, les stations balnéaires entrent donc en hibernation. La saison touristique reprendra véritablement à Pâques.
Jean-Michel Guénier va maintenant nous parler du Dinguigo.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Une annexe qui se transforme en voilier.
Et oui Jérôme, c'est vrai que le plus souvent sur les bateaux de croisière, on possède une petite annexe gonflable, un petit Zodiac avec un petit moteur hors-bord, aller de 3 chevaux jusqu'à 9 chevaux selon la taille de l'annexe. Mais à part s'en servir pour aller à terre, l'engin demeure purement fonctionnel et, dirons-nous, pas très fun. C'est d'ailleurs ce qui fait que certains embarquent en plus à bord de leur bateau un paddle, une planche à voile ou un kitesurf pour se distraire aux escales. Eh bien, il y a une alternative qui vient de voir le jour, c'est une annexe d'un nouveau genre qui s'appelle le Dinguigo, une annexe gonflable qui peut aussi recevoir un mât et se transformer en dériveur le temps d'un mouillage. Alors, les fabricants de pneumatiques ont été nombreux à imaginer de mettre une voile sur leur engin pour profiter d'un jouet supplémentaire au mouillage, pour les enfants ou pour les plus grands. La voile donne une bonne occasion d'aller découvrir plus en détail les environs du mouillage. Mais jusqu'ici, les adaptations de gréement sur les pneumatiques relevaient plus souvent du bricolage que d'une véritable installation performante. Le Dinguigo, il a été pensé différemment. Construit autour d'un pneumatique traditionnel avec un fond gonflable, donc identique à la technologie utilisée pour rigidifier les paddles, la partie voile, elle a été imaginée dès la conception du produit. Le plancher est ainsi traversé par la dérive qui vient prendre appui sur le banc de nage. Une gaine textile souple évite les entrées d'eau et le mât est implanté à l'avant comme sur un catboat. Alors sans le mât, le Dinguigo, c'est une annexe classique avec un tableau arrière rigide capable de recevoir un moteur hors-bord. Il existe même trois longueurs, 2m30, 2m75 et 3m25, ce qui est déjà une belle annexe. Et puis l'annexe dégonflée, eh bien, elle se range dans un sac, alors qu'un autre sac permet de ranger les accessoires, le mât, la voile, le safran relevable et la dérive. Alors cet engin d'un nouveau genre, il est fabriqué aux Pays-Bas par Aquacraft, et selon la taille, les prix vont de 2699 à 3699 euros. C'est vrai que ça n'est pas vraiment donné, mais la polyvalence du Dinguigo et le sérieux de sa construction méritent toutefois qu'on s'attarde sur cette annexe hybride, vraiment, vraiment bien conçue.
Dans un instant, Jean-Michel, vous allez nous présenter un navigateur.
France Bleu. Bienvenue à bord.
Ce sont des bateaux impressionnants qui sont actuellement présents à Brest. 4 maxi trimarans de la classe ultime qui s'apprêtent à prendre le départ de la Brest Atlantique. C'est une première. Une course qui va emmener les skippers vers Rio de Janeiro, puis le Cap en Afrique du Sud, avant de revenir à la pointe bretonne. En attendant le départ, le public a pu les admirer et certains enfants ont pu monter à bord pour les visiter. Morgane Euclin-Refait était présente.
À bord, les questions fusent, c'est Nils, membre du team, qui tente d'y répondre.
De temps en temps, ils vont quand même sur le mât pour vérifier que tout va bien, parce que c'est un peu le moteur du bateau.
Quoi ? Mais comment ils montent ?
Ils ont un harnais, comme en escalade.
35 mètres de haut, ça impressionne, mais c'est surtout le trampoline qui fascine les enfants.
Moi j'avais un petit peu peur.
Ça stresse déjà, parce qu'on peut tomber. Quand t'es dans les filets, on a l'impression que ça va se déchirer.
Nils les rassure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
C'est que des nœuds. C'est fait à la main. Ils mettent pas loin de 3 semaines pour les faire.
C'est fragile.
Non, c'est très solide.
Dans la cabine, les deux skippers s'occupent des derniers préparatifs.
Ils vont être à deux pour faire marcher le bateau et Ronan qui va les filmer. Donc il y a Yves le skipper. Ah bah ils dorment, mais pas beaucoup, beaucoup.
Ils vont galérer.
Ça va être assez dur, parce que le bateau est quand même très grand.
Et pourtant, le petit Noah est tenté par l'aventure.
C'est la première fois que je monte dans un bateau de course. Donc ça fait l'impression comme si j'allais participer à une course.
Toi, tu t'y voyais déjà ?
Oui.
La course au large sur un bateau qui vole, ça fait rêver les enfants. Découvrir ces ultimes de plus près pourrait bien faire naître des vocations.
et le départ de cette course en double prévue ce dimanche a été reporté en raison des conditions météo.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, c'est désormais régulièrement le cas, et bien vous allez nous présenter un navigateur, Jean-Michel Guénier, Alain Gerbaud.
Alain Gerbaud, en effet, né le 17 novembre 1893 à Laval, en Mayenne, et mort le 16 décembre 1941 à Dili, en Indonésie. Alain Gerbaud est un fameux skipper et écrivain français qui s'illustra aussi comme joueur de tennis et pilote d'avion lors de la Première Guerre mondiale. Il est le premier navigateur à traverser l'Atlantique à la voile en solitaire d'est en ouest en 1923 et le premier français à achever un tour du monde en solitaire à la voile dans les années 30. Célèbre également pour son plaidoyer en faveur des Polynésiens, la réplique de son bateau Firecrest est aujourd'hui visible dans un jardin public de sa ville natale, Laval.
Merci Jean-Michel Guénier. Fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.